Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Après ça, on va aller dans le premier livre de Jean, où on va terminer une série de deux messages sur « Tel il est, tel nous sommes ». À l'audiovisuel, ça se peut que la manette elle lâche parce qu'il n'y a plus de batterie, mais là, pour le moment, elle fait juste me dire qu'il manque de batterie, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de vous. OK, donc aujourd'hui, on s'intéresse à la première épître de Jean, et on va courber en prière pour demander au Seigneur qu'il nous assiste dans cette écoute de la parole de Dieu. Seigneur, Marie était assise au pied de Jésus, puis elle l'écoutait. Puis Marthe, elle s'affairait à faire toutes sortes de choses. Jésus, tu as dit à Marthe, tu te préoccupes pour ben trop de choses. Une seule chose est importante. Puis Marie, elle a choisi la bonne part. Puis, Seigneur, je pense que si tu serais ici en 2017, tu nous dirais, tabarouette. Pour vous énerver bien donc, pour bien des affaires. Une seule chose est importante. C'est de faire la part de Marie. C'est de faire comme Marie faisait. C'est de s'asseoir et je m'assois avec mes frères, avec mes sœurs, à tes pieds, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole, Seigneur. J'ai eu des scoops, parce que je l'ai lu avant. Mais Seigneur, je veux moi-même être nourri en foulant le grain, par ton Saint-Esprit qui vient nourrir ton Église. Je te prie de faire du bien à ta famille, tes enfants. Au nom de Jésus, amen. À chaque génération, l'Église a ses défis. Et quand que Jean a écrit la première épître de Jean, il y avait des défis. Et son défi, qui était là, est encore plus présent, je pense, au 20e siècle. C'est qu'il y a, dans le monde, l'Église visible, puis il y a l'Église invisible. Où, parmi ceux qui se disent croyants, il y a ceux qui sont sauvés, puis ceux qui peut-être pensent qu'ils le sont, mais qui ne le sont pas nécessairement. Et donc, ça pose un défi. Puis Jésus, avant même que l'Église naisse, il nous a donné plein de petites paraboles pour nous montrer à quoi ça ressemblerait un petit peu cette période-là, cette ère de l'Église. Et donc, on est dans ce qui paraît, puis dans ce qui est vraiment. Et tous, nous ne lui appartenons pas. Et mon désir, c'est que si vous m'écoutez aujourd'hui, puis vous ne faites pas partie de sa famille, vous lui apparteniez. Jean n'a pas été écrit dans la première épître pour faire douter le monde de leur salut. Il a été fait pour leur donner la certitude qu'il en était, qu'il était sauvé. Qu'il n'était pas juste des professeurs, mais qu'il était des gens qui avaient véritablement acquis le salut en Jésus. Donc, ce n'est pas tous ceux qui professent son nom qui lui appartiennent nécessairement. Un bon chapitre dans Matthieu 7, il y a des prédicateurs là-dedans. Il y a des gens qui ont chassé des démons en son nom qui sont dans cette liste-là. Il y a des gens qui ont guéri des malades qui sont dans cette liste-là, au nom du Seigneur Jésus. Et pourtant, Jésus dit, hey, c'est quoi? Vous ne m'appartenez pas. Et donc, en prophétisant sur l'ère de l'Église, Jésus a donné des paraboles, puis dans ce chapitre-là, au chapitre 13, il dit au début, il dit à la fin, je vous parle en parabole pour que tout le monde ne comprenne pas nécessairement, hein? Mais à vous, je vous explique qu'est-ce que veut dire ces paraboles-là. Et on va tourner ensemble en Matthieu au chapitre 13 pour aller lire ces paraboles-là qui annoncent l'ère de l'Église. Matthieu 13. J'ai encore oublié de me prendre de l'eau. Si jamais quelqu'un veut me l'apporter, je vous serai reconnaissant. Matthieu 13, on va lire à partir du verset 24 à 30. Et là, il venait juste de faire une parabole sur la parabole des terrains, puis la manière qu'on a d'écouter la parole de Dieu. Il nous parle de différents types de cœurs, puis il nous parle que beaucoup de gens écoutent la parole, puis la plupart l'écoutent avec joie. Ils sont contents quand ils l'entendent, mais ça ne produit pas nécessairement le fruit que ça doit produire dans chacune des personnes. Puis là, il arrive avec cette parabole-là, puis cette parabole, il dit ceci. Il dit, leur proposant une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? » Merci. Bien là, le maître dit, « Bien, ben là, les serviteurs disent, « Bien, d'où vient qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui disent, « Veux-tu qu'on aille l'arracher? » Et le maître leur répond, « Non, leur dit-il, car en arrachant l'ivraie, vous déracineriez aussi en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe, et puis la brûlez. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Ensuite, Jésus, il continue à raconter des histoires. Puis là, il donne une autre histoire. C'est l'histoire d'un petit arbre, une petite semence qui est devenue un grand arbre. Il dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Il leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sinvé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Et là, ici, Jésus est en train d'annoncer que l'Église, ou en tout cas le royaume des cieux, serait quelque chose de petit, mais qui deviendrait assez grand pour que les oiseaux du ciel puissent venir, puis viendraient se percher dans cet arbre-là, puis viendraient manger les fruits à cet arbre-là. On continue. Après ça, il prend une femme qui est en train de faire du pain. Puis là, on imagine toute cette femme en train de pétrir du pain. Et il leur propose une autre parabole. Il lui dit, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Un peu plus tard, on définira un peu plus ça. Ensuite, à force de raconter ces histoires-là, Jésus renvoie la foule et il rentre dans sa maison, dans la maison où il était, je pense que c'est au verset 36. Et ses disciples s'approchent de lui, puis eux autres, ils ont resté accrochés sur la parabole de l'ivraie puis du blé. Ils ont comme pas accroché sur l'arbre qui est devenu trop grand avec les oiseaux, ni la femme qui faisait du pain, mais ils sont restés accrochés sur les vrais puis les faux, ceux qui poussent ensemble. Puis là, ils vont dire, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Jésus dit au verset 37, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi l'a semé. C'est l'ennemi qui l'a semé et c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et là, Jésus dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales ou ceux qui font trébucher les hommes dans la vérité, de la vérité. Hein, les scandales, ce sont ceux qui amènent qui amènent d'autres personnes à ne pas croire, finalement. Okay? Il dit qu'il va les arracher de son royaume et aussi tous ceux qui font l'iniquité. Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et là, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Dans toutes ces paraboles-là, ou dans cette série de paraboles-là, on voit une progression. La première chose qu'on voit, c'est que quand Dieu commence à faire l'œuvre dans la vie d'une personne, il commence par sa parole. Et c'est pour ça que la parole est la parabole des terrains, la semence. C'est souvent relié à une semence. Et donc, quand Dieu, il vient faire une œuvre, il vient déposer une semence dans notre cœur. Et c'est ce qu'il fait, il va le dire dans 1 Jean, je pense que c'est 1:23, mais je ne suis pas sûr. Vous avez été engendrés par une semence incorruptible, qui est la parole de la vérité. Et donc, quand Dieu commence à faire l'œuvre dans la vie d'une personne, il lui donne sa parole, il lui donne la bonne nouvelle. Après ça, dans ces paraboles-là, on voit aussi la réponse de l'homme à l'œuvre de Dieu. Puis aussi, qu'est-ce qu'on voit dans ces paraboles-là? On voit les tentatives du malin pour venir voler le fruit, pour essayer d'empêcher une récolte, pour impacter l'œuvre de Dieu, pour stériliser l'impact du ministère de la parole de Dieu. Puis, éventuellement, il y a le jour visible de notre Seigneur Jésus, où Jésus va accorder son royaume à certains, puis il va aussi juger d'autres pour la damnation éternelle. Fait que, le commencement de l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne, ça commence par entendre la bonne nouvelle. La réponse de l'homme, ensuite, c'est, dans la parabole des terrains, on voit qu'il y en a qui étaient divertis par... un cœur qui était superficiel, un cœur qui restait juste en surface. Il était distrait par des tentations, puis la semence n'a pas pu porter son fruit. D'autres étaient découragés par des tribulations. Puis il y en a d'autres, par contre, qui développent un amour pour la vérité. Ils entendent l'Évangile, ils trouvent un sol profond, puis la personne dit « Je pense que je vais y croire à ça. » Puis là, elle s'y attache, puis là, elle porte du fruit. Et elle devient un membre de la famille de Dieu. Elle devient enfant de Dieu. Dans le début du processus, ou dès que c'est commencé, dès qu'il y a conception, si on peut dire, Satan veut détruire quelque chose de beau qui est commencé dans chacune de nos vies. Il va commencer par essayer de venir voler ce que tu as entendu pour que tu penses à d'autres choses, pour que tu deviennes préoccupé, puis que tu ne donnes pas trop d'occupation à tes pensées, à ces paroles de, qu'il va dire, lui, il va appeler ça des paroles de mensonge. Mais une autre façon que Satan va s'y prendre dans l'ère de l'Église, c'est qu'il va ajouter dans l'Église des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas aussi. C'est une belle chose. C'est une belle chose que l'Église ne soit pas juste remplie de ceux qui ont accepté le Seigneur, mais qu'il y ait en plus de ça, dans cette Église-là, des gens qui ne l'ont pas encore reçu, puisqu'ils auront une chance d'avoir la parole de Dieu, puis éventuellement voir le commencement de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Toutefois, cette ouverture-là, elle a des avantages. On veut que tout le monde soit sauvé, Dieu aussi, mais elle a des désavantages. Puis les désavantages, on va en parler un petit peu. Puis Jean, il y avait affaire à ça, et on va en parler un petit peu. D'abord, il dit que l'homme il est venu la nuit, puis il est venu semer de l'ivraie. Puis Jésus dit, le blé, ce sont les fils du royaume. Est-ce qu'un royaume peut avoir des enfants? Non. Donc, c'est une image figurée que Jésus est en train d'utiliser entre fils du royaume. Personne ne peut être le fils d'un royaume. Mais c'est des gens qui font partie de ce clan-là ou de cette famille-là, qui est la famille des enfants de Dieu, les fils du royaume. Puis il dit, ceux qui sont livrés, ce sont les enfants du malin. Et ça ne veut pas dire que le diable peut avoir des enfants, parce que quand Jésus nous dit qu'on ne peut pas se marier au ciel, il nous compare à des anges, dans le fond, qu'on ne peut pas vraiment procréer puis avoir des familles là, quand on va être au ciel. Puis il nous compare aux êtres angéliques. La seule manière que les anges peuvent procréer, c'est s'ils prennent un corps de personne. C'est déjà arrivé. Mais les enfants du malin, Satan n'a pas d'enfants. Par contre, il y a des gens qui croient son mensonge. Dans Jean chapitre 8, il dit, vous dites que vous avez Dieu pour père, mais vous êtes meurtrier, vous avez pour père le diable. Il n'est pas en train de dire que le diable a eu des enfants, mais il est en train de dire que vous agissez comme celui avec qui vous vous tenez. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Puis le malin, il va venir, puis il va venir placer dans les églises, ça va être un arbre qui est anormalement trop grand. La parabole du petit arbre n'est pas supposée de devenir si grand que ça. Il n'est pas supposé de devenir à un endroit où plein d'oiseaux viennent du ciel pour se percher dedans. Ce n'est pas ça qui est supposé. Et donc, le christianisme voit son nombre grossir, mais pas nécessairement par des gens sauvés. Et en ce sens-là, il y a des oiseaux du ciel qui viennent, puis on trouve une place pour se percher. Pourquoi ils peuvent trouver une place pour se percher? Parce qu'il se trouve que tous ne sont pas nécessairement enfants de Dieu. Et là, il vient arriver une menace dans l'Église chrétienne. L'arbre devient plus grand que nature. L'Église abrite des gens qui sont fils du royaume, mais elle abrite aussi, un peu comme dans le champ, des fils du malin, ou des gens qui n'ont pas qui ne sont pas encore sauvés. Mais l'Église rêve de devenir plus grande. On est une petite Église, je veux dire. Envoyez-nous n'importe lesquels des gens pourvu qu'ils croient à l'Évangile, tu sais, puis qu'ils se convertissent. Tu sais. Jésus, il est mort pour tous les hommes. Fait qu'on dit, nous autres, on veut grossir nos églises, tu sais, c'est sûr, on veut survivre. Et donc, l'Église rêve de devenir plus grande pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Elle se veut accueillante et désire que tous les hommes parviennent à la repentance, mais dans cette ouverture, le malin s'immisce dans ça pour essayer de la pervertir. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit avoir aussi du discernement. Et ces oiseaux du ciel-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Jésus l'a dit dans le même chapitre, il dit « Les oiseaux du ciel, ce sont les démons qui viennent arracher la parole de Dieu dans le cœur des gens. » Et donc, ces oiseaux du ciel-là qui viennent se percher, ils veulent faire quoi exactement? Ils veulent gober le fruit aussitôt qu'il sort. Ils veulent venir tuer le fruit d'un ministère qui annonce la parole de Dieu. Il veut venir neutraliser le travail de l'Église et il veut avoir une plateforme et une base par laquelle il va pouvoir opérer de l'intérieur. Puis l'Église visible, elle, est-ce qu'elle est obligée, elle devrait-tu essayer d'être plus petite, être juste composée de croyants puis pas avoir de troubles? Non! Elle ne doit pas faire ça parce qu'on veut voir des gens venir à Jésus-Christ. Puis en plus, les ennemis de Christ, s'ils restent assez longtemps, vont finir par devenir ses amis. Parce que Christ est mort pour eux, puis ils vont découvrir l'amour en Christ, puis tous ceux qui sont incroyables ne sont pas ennemis de Christ. Mais je parle que même ceux qui seraient des ennemis de Christ, on va en parler à la fin du message, tous ne sont pas ennemis de Christ. Plusieurs ne croient pas, mais ils ne sont pas ennemis du tout. Ils ne sont pas contre Christ. Ils n'ont juste pas entendu l'Évangile. Mais il y en a des ennemis, puis ils vont peut-être venir. Mais s'ils viennent, tant mieux, parce qu'ils vont entendre l'Évangile, puis ils peuvent se convertir. Qu'est-ce que l'Église doit être? Elle doit être inclusive, puis annoncer le pardon en Jésus-Christ. Puis contrairement à des semences d'ivraies qui ne peuvent jamais devenir du blé, bien, un pécheur peut devenir un sauvé. Quelqu'un qui c'est par nature, c'est impossible d'être sauvé. On ne peut pas se sauver soi-même. On a besoin d'un changement de nature. Bien, une personne qui n'a pas la nature sauvée, entre guillemets, elle peut devenir sauvée. Parce que Jésus offre un changement de nature, une nouvelle nature. Et ça motive l'Église chrétienne à garder ses portes bien grandes ouvertes et à dire, c'est-tu quoi? Tout le monde est le bienvenu. Par contre, ça ne nous enlève pas nos lunettes. Ça ne nous enlève pas nos yeux puis notre capacité ou notre devoir d'avoir du discernement pour savoir qui est dans notre sein, dans le christianisme. Okay? Donc, c'est là que Jean arrive avec sa première épître. Puis, lui, ce qu'il veut faire là, dans sa première lettre, il veut qu'on discerne c'est quoi un chrétien authentique puis c'est quoi un semblant de chrétien. Il veut nous redonner aussi l'assurance parce que les faux docteurs étaient venus, les faux livrets étaient venus dans l'Église. Puis, ces gens-là, ils enseignaient que la vie éternelle, ce n'était pas par Jésus-Christ nécessairement, mais par une expérience mystique. Et donc, il commençait à les faire douter qu'ils avaient reçu la vie éternelle, il commençait à les mettre en doute. Et donc, une des raisons aussi que Jean a dit, c'est redonner l'assurance aux croyants qui ils sont, qui ont vraiment reçu la vie éternelle, puis qui Christ est. Donc, un peu pour rattraper le message de la semaine passée, on va juste regarder à chaque fois que Jean dit « j'ai écrit ça pour »,« j'ai écrit ça pour », il y a comme quelques raisons. On va aller à la prochaine étape. Pour avoir une communion spirituelle avec les autres croyants. Il dit, moi, je vous écris ça parce que je veux qu'on soit en communion ensemble. On a vu que la base de la communion chrétienne, ce n'était pas de faire des activités ensemble, mais c'était de grandir ensemble dans la parole de Dieu. Pour sa propre joie, Jean dit, c'est pour que je sois heureux que je vous écris cette lettre-là. Pour que les chrétiens ne pêchent pas, puis on avait vraiment passé du temps sur ça. Si vous ne l'avez pas écouté, si vous n'étiez pas présent la semaine passée, je vous encourage à aller l'écouter. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 4, il dit que Jésus est paru pour ôter le péché du monde. Ce n'était pas juste venir mourir sur la croix pour nous, mais c'était de venir briser en nous la pratique du péché. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point, afin qu'on devienne de plus en plus comme lui dans le monde. Parce que quand Dieu veut faire savoir qui il est, dans le temps de Jésus, il envoie son Fils. Aujourd'hui, quand Dieu veut faire savoir comment il aime le monde, il envoie son Église. Ça, c'est vous et moi. Par contre, quand on vit dans le péché, qu'on pratique le péché, puis qu'on n'est pas confessé à date, puis qu'on n'a pas laissé ce pouvoir-là être brisé dans notre vie, bien, on n'est pas différent des autres du monde. On est le sel de la terre, mais on a perdu notre saveur. Fait que le message de la semaine passée, comme un bloc de construction important dans cette série-là. Par contre, vous n'avez pas besoin de ce message-là pour nécessairement comprendre ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais le but, Jean dit, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez pas. Ça, on a parlé aussi beaucoup d'amour fraternel, puis qu'on devrait aimer tout le monde, mais on devrait aimer particulièrement la famille de Dieu. Jean nous en parle. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, que Jean écrit cette épître-là pour que les chrétiens aient du discernement concernant les antéchrists, puis aussi pour avoir la certitude qu'ils ont la vie éternelle. Fait que c'est ça qu'on va faire si Dieu le veut, si l'enlèvement ne vient pas. L'enlèvement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que Christ va revenir chercher son Église, puis c'est mieux d'avoir des bas propres quand vous êtes enlevés, parce que ça va rester à terre, on monte. C'est une blague. OK, donc c'est qu'il vient chercher avant les 7 années de grande tribulation sur la terre. Mais bon, c'est un autre message. OK, donc pour avoir du discernement concernant les antéchrists, on va le lire, 4.1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ah, c'est un chrétien. Ah, c'est un chrétien. Carte blanche. Non. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'Église, là, quand c'est écrit, elle n'a pas plus de 60 ans. Ça ne fait pas plus que 60 ans que le ministère de l'Église existe. Puis déjà, Jean, il dit, tu sais quoi? C'est pas tout ce qui se dit enseignant, prophète, whatever, qu'il faut que tu ajoutes foi facilement comme ça. Ça veut dire que c'était commencé dans l'Église, il y avait cette menace-là. Il y a des gens qui arrivaient avec des nouveaux enseignements. Soit ils avaient grandi dans l'Église, soit ils arrivaient de l'extérieur, mais ils commençaient à penser un petit peu bizarre. Et donc, ils voulaient amener des nouveaux enseignements qui s'éloignaient de la connaissance de Jésus-Christ. Et Jean va leur dire dans le chapitre 2, verset 27, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, demeurez dans les enseignements que vous avez reçus. » Et là, il ne dit pas, Jean n'est pas en train de dire, « Écoutez pas quand que je vous enseigne, vous n'avez pas besoin que je vous enseigne. » Mais il est en train de dire, « On vous a fait dire qu'il fallait que vous soyez enseignés. » Mais c'est ces gens-là, là, au chapitre 4, verset 1, qui veulent vous enseigner, ce sont des séducteurs, qui arrive avec une nouvelle doctrine, et vous n'avez pas besoin d'avoir un nouvel enseignement. C'est un petit peu ça que j'ai dit dans 2.27 en disant, restez dans l'enseignement que vous avez reçu. La bonne nouvelle, c'est ça par quoi Dieu commence le travail, et ça demeure ce sur quoi on repose. Et donc, l'œuvre a commencé par la bonne nouvelle de l'Évangile, et elle doit continuer par l'Évangile, pas par des nouveaux enseignements bizarres. Et la menace pour Jean et l'Église, c'était quoi? Un autre évangile. Quand Dieu forme des serviteurs pour travailler dans son Église, les responsables de ministère, ceux qui servent dans le ministère, il y a des requis, même pour servir dans l'Église. Il y a des requis. Et pour ceux qui sont en charge de ceux qui servent dans l'Église, il y a des requis encore plus importants. On le trouve dans le chapitre 3 de 1 Timothée. C'est écrit au verset 10, je vais revenir à éprouver tantôt pour ceux qui sont les esprits, mais il faut éprouver aussi ceux qui servent, ceux qui sont de Dieu, ceux que Dieu s'est choisi à son service, ou qu'on a ceux qui ont choisi de servir Dieu. Bien, il faut les éprouver d'abord. Dans 1 Timothée 3, 10, c'est écrit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère ensuite s'ils sont sans reproche. Et ça ici, ce n'est pas les pasteurs, c'est ceux qui sont en charge du service dans le corps de Christ. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça, évaluer? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'éprouver un esprit? Bien, est-ce que la personne montre les fruits d'une foi personnelle en Jésus-Christ? Est-ce qu'elle a cru que Jésus-Christ était son sauveur, puis elle a-t-il placé sa confiance en lui? Est-ce qu'elle marche dans la foi de ce sauveur-là aussi? Est-ce qu'il montre ou elle montre le fruit d'un disciple? Quand Jésus veut décrire un disciple, il y a deux choses qui sont importantes, c'est l'apprentissage, grandir, continuer dans la parole de Dieu, puis servir. Jésus dit, heureux l'homme que Dieu trouvera, qui s'est saint pour servir quand il va revenir. Et donc, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui sert. Et donc, les fruits d'un disciple ou d'un serviteur, bien, c'est facile à découvrir. Enfin, on connaît quelqu'un sous pression. Par exemple, la pression peut être juste une demande d'être formé ou d'être présent pour rassembler le corps de Christ avec le reste du corps. Moi, ici, en tant que pasteur, je m'attends qu'avant qu'un leader commence à travailler à superviser d'autres personnes dans le ministère. Je m'attends qu'ils rassemblent avec moi le corps de Christ autour de la parole de Dieu. Sinon, on est en train de dire que ce n'est pas écouter la parole, mais c'est de s'affairer à toutes sortes d'autres tâches. Et donc, c'est important, quitte à ne pas grandir trop vite, que si on est là pour servir le Seigneur puis encourager d'autres à servir, qu'on ne fera pas juste des mains pour Dieu, mais des cœurs pour Jésus aussi. Puis ça, ça se passe quand on écoute la parole de Dieu. Donc, si tu lui dis, écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses m'aider à rassembler le corps de Christ autour de la parole de Dieu, autour de la prière, puis de chercher Dieu ensemble. La personne veut t'arracher la tête pour ça. Tu as ta réponse. Tu passes au prochain. Qu'ils soient éprouvés et qu'ils exercent leur ministère ensuite. Comment est-ce que ce chrétien ou cette chrétienne-là agit sous la pression? Est-ce que sous pression, elle cherche à dire, j'aimerais savoir, je vais aller chercher du conseil, j'aimerais savoir comment agir dans cette situation-là. Ou bien non, la première chose, bien la première, c'est souvent la chose naturelle qui sort, mais est-ce qu'elle revient à son bon sens? Puis après ça, elle se dit, comment Christ voudrait que j'agisse en tant que disciple de Jésus dans cette situation-là? Qu'ils soient éprouvés d'abord, qu'ils exercent leur ministère ensuite. S'il a du temps libre, se rend-il ou se rend-elle disponible pour donner un coup de main? Qu'ils soient éprouvés, qu'ils exercent leur ministère ensuite. Si ton responsable de ministère te rencontre, aimerait que tu apportes un changement dans la manière que tu fais ton service, est-ce que tu es prêt à tout lâcher? Qu'ils soient éprouvés d'abord, qu'ils exercent leur ministère ensuite. Tu peux être un serviteur dans une petite capacité, si, admettons, je ne prends pas la reproche, les critiques, tout ça. Je peux être un serviteur avec un petit peu de capacité, mais je ne peux pas être celui qui va diriger d'autres personnes, puis je vais expliquer, je vais partager avec vous pourquoi je vois ça comme ça. Parce qu'il faut être éprouvé d'abord, parce que le malin va venir mettre ses pattes sales dans votre service et va venir causer du trouble entre les frères. Et le manque de maturité, s'il n'y en avait pas au départ, ça va être encore pire quand on va être impliqué, puis on va avoir la pression, parce que quand on se lève pour Dieu, on se lève aussi contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et lui, il va chercher à faire des discordes entre frères et sœurs. Et donc, si je n'ai pas cette maturité-là d'accepter des vents contraires à mes préférences naturelles, puis tout ça, mais je ne suis pas propre à être dirigeant de d'autres hommes, parce que je ne peux pas diriger ma propre vie contre le prince de ce monde de ténèbres qui veut agir et détruire l'œuvre de Dieu. On l'apprend des fois, j'ai des dents dans le sac. Sérieux, j'apprends ça. Je me suis refait faire les dents, je pense, plusieurs fois. Mais j'apprends que la bâtisse ne peut pas être plus grosse que sa fondation. Puis je l'ai appris à mes dépens. Et donc, ça, vous me dites combien ça t'a pris de temps de préparer ça? 12 ans de ministère, 13, 14 ans de ministère, puis 5 heures d'études. Pourquoi être éprouvé d'abord? Parce que le malin veut détruire. Il y a des oiseaux dans les branches. Le malin est là, je veux dire, c'est le rassemblement des enfants de Dieu, mais il y a des oiseaux dans les branches. Ils sont là, ils nous épient, ils regardent juste de voir comment ils vont nous faire trébucher. Hey, on a de la visite de très loin du Liban ce matin, on vous accueille chaleureusement. Bienvenue. Géona, Jonathan, puis Nada. C'est ça. Ouf! Je l'ai eu, puis Mirella. Bonjour Mirella, pour ceux qui ne t'avaient pas vu mercredi, bienvenue. Yes. Donc, c'est spécial. Pensez à ça. C'est où c'est que le malin est le plus préoccupé dans le monde? Je veux dire, il arrête de tenter le reste du monde en ville aujourd'hui. Il est ici. Ils sont là, puis ils regardent. Les oiseaux du ciel sont là, puis ils regardent. Ils disent, qu'est-ce que je peux venir voler de la seigneurie de Jésus-Christ, parce que les gens vont se soumettre à Jésus après avoir écouté la parole de Dieu, puis ils ne me serviront plus. Satan perd des intérêts aujourd'hui. Alors, les oiseaux du ciel sont là, puis ils épient l'œuvre de Dieu. L'arbre, il y a des oiseaux dans ces branches-là pour venir manger les fruits, puis neutraliser le travail le plus vite possible. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est bien beau dans un message, mais quand la guerre spirituelle éclate, il n'y a personne d'entre nous qu'on voit qu'on s'est fait avoir par le malin. C'est beau dans un message. Mais quand on a été neutralisé, puis qu'on est chacun de notre côté comme le frère aîné, puis qu'on est là dans l'atelier, puis on n'est pas proche du Père, on n'est pas en train de dire qu'on est en train de se faire avoir par le diable. On n'est pas en train de se dire qu'il y a des oiseaux dans les branches qui regardent ce fruit-là, qui pourrait sortir de notre vie, puis être au service du corps de Christ, puis on se fait voler nos fruits comme ça. Plus une personne est en vue, plus le dommage sera grand. Si j'ai déjà fait cet exercice-là un mercredi soir, j'ai assis un démon sur le bâtiment ici. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Est-ce que vous vous rappelez? Levez la main ceux qui étaient là qui se rappellent que j'avais assis un démon sur le bâtiment. Ah, il est bizarre. On est-tu dans une église? OK. Il y en a-tu d'autres personnes? Levez la main. Un démon sur le... Puis là, j'ai dit, vous êtes tous des démons ce soir. Puis là, on s'est mis en cercle, puis on a commencé à dire, si vous voudriez détruire cette œuvre-là, que feriez-vous? Et là, on a conspiré. Tu t'en souviens, hein? Puis la plupart des choses qu'on a dit sont arrivées. Puis il n'y a personne, presque, qu'on a dit, « Hey, c'est-tu quoi? » On avait raison. Plus une personne sera en vue, plus le dommage sera grand. Si vous seriez un démon, qu'est-ce que vous feriez? Vous attaquez les gens en tête et ceux qui ont un ministère visible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu allais dire? Tu tires la tête. Ou en tout cas le cou ou l'épaule. Mais ceux qui sont plus en vue. J'aime pas même ça dire que le pasteur c'est la tête avec ce qu'on a déjà entendu des hérésies. Christ est la tête de son Église. Dans une organisation, oui, il y a une tête dirigeante. Oh là là. OK. Plus tu vas toucher des gens qui sont en vue, plus tu vas avoir de l'impact sur ceux qui les suivent, n'est-ce pas? Il y a trois questions à se poser lorsqu'on éprouve une personne en direction ou quelqu'un qui va diriger d'autres hommes ou d'autres femmes dans le corps de Christ. C'est est-ce qu'elle aime le corps et son pasteur? C'est important parce que souvent on aime l'Église, on aimerait donc ça que le pasteur ne soit pas là. Tu sais. Fait que ça fait comme ça fait pas des bons mélanges. Mais normalement, est-ce qu'elle aime l'équipe? Est-ce qu'elle aime le corps? Puis est-ce qu'elle aime le pasteur? Deuxièmement, est-ce qu'elle croit à ce qu'on est en train de faire? Je disais, elle manque un rassemblement, elle part en vacances pour 3 mois, as-tu repris un CD? As-tu de savoir ce qui s'est passé en son absence? Elle écoute-tu les messages quand on ne peut pas les écouter? Es-tu là? Est-ce qu'elle croit à ce qu'on fait? À ce qu'on tente d'atteindre en tant qu'Église? Sinon, elle peut servir, mais est-ce qu'elle peut diriger d'autres hommes? Parce que dans le fond, tu es en train de dire, sais-tu quoi, on a une vision, puis je vais encourager d'autres hommes puis d'autres femmes dans cette vision-là. Qu'ils soient éprouvés d'abord, qu'ils exercent leur ministère ensuite. Troisième point, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Et là, ça rentre beaucoup dans ce que Jean va parler, justement, dans ceux qui étaient au milieu d'eux puis qui se disaient enseignants. On va en parler un peu plus tard. L'Église Grâce et Vérité, je suis fier de dire que c'est une Église qui est encore debout à cause de ces principes-là. Il y a un leadership qui a été éprouvé. Il y a un leadership qui ne tolère pas le compromis dans les croyances ou dans les comportements. Puis il y a un leadership qui est ouvert aux rétroactions. Si vous voulez le tester, vous pouvez le faire. Papier anonyme dans la boîte en arrière. Vous pouvez essayer de me parler ou à un de nos leaders. Et voyez s'il y a un retour, si on reçoit. Bon, moi, je suis un gars assez sensible. Fait que si on me dit que, tu sais, au début, après ça, je reviens, je réfléchis, puis... J'essaie de prendre du sens dans ce qui a été dit, mais il y a un leadership qui est ouvert et corrigible. Et ça, c'est tout à l'honneur du leadership ici. Donc, que ceux qui veulent faire le ministère soient éprouvés d'abord, puis qu'ils exercent leur ministère ensuite, si c'est vrai pour ceux qui sont en charge du service, ceux qui sont là pour servir dans le corps de Christ, c'est encore plus vrai pour ceux qui enseignent. Pourquoi? Bien, parce que le malin, lui, pour pouvoir maintenir son grain de sel dans l'enseignement de la personne, si la personne, justement, elle n'a pas été éprouvée dans ce qu'elle croit ou dans ce qu'elle enseigne. Et aussi, si jamais on vous demande un jour de venir parler, acceptez déjà qu'il y a quelqu'un qui va venir vous voir pour vous dire, « C'est-tu quoi? Ça, c'était super. Mais ça, ce n'est pas tout à fait juste. Laisse-moi redresser un petit peu. On va regarder dans l'Écriture, puis tu me diras si j'ai tort. Mais on va regarder dans l'Écriture. Je l'ai fait des fois, et je me suis fait arracher le bras. Ça, ici, c'est un implant que vous avez. Je l'ai fait, mais j'avais attendu trop longtemps pour le faire dans le passé. Puis à un moment donné, je suis arrivé, j'ai dit, c'est quoi ça, c'est pas tout à fait juste. Là, je suis sorti avec un bras en moins. J'ai dit, oh, c'est quoi, je pense que je vais passer mon tour. Mais c'est pas le même que l'Église grandit. Fait qu'il faut apprendre à se relever de ces coups-là, puis de dire, c'est-tu quoi, si jamais on vous demande déjà de faire un service, puis votre service n'est pas parfait, le mien non plus ne l'est pas. Il n'y a aucun de notre service qui est parfait. Puis Dieu a compassion des enfants et des fils qui le servent. Mais celui, dans les Proverbes, c'est écrit, celui qu'on traite mollement finit par se croire un fils, dans le sens où ce qui se prend pour acquis, puis on prend pour acquis qu'on ne peut pas... Tu sais, moi, c'est pour le Seigneur que je le fais. Oui, mais c'est parce que ce n'était pas bien tout à fait qu'est-ce qui a été fait. Et donc, on doit apprendre en tant que disciple, si on veut grandir dans la connaissance, puis aussi dans la ressemblance à Jésus-Christ, il faut grandir dans l'humilité. Et puis, on doit être corrigé. Ça, c'est important. Donc, si c'est vrai, les pasteurs et les enseignants... Je vais juste regarder ma montre ici. Mon petit timer. Pause mentale. OK. Efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement de la vérité. Paul dit à Timothée, assure-toi que tu sois éprouvé, que tu aies passé le test. Pourquoi? Parce que les ministères publics vont être jugés plus sévèrement. Et Jésus, il disait, il y en a qui font des longues prières là, dans les rassemblements, ils aiment ça être vus des gens, ils ont les tables d'honneur, sont vus, sont plus en public, mais Jésus dit, ils seront jugés plus sévèrement. Et Jacques va répéter les paroles de son frère, puis il va dire, savez-vous quoi? Qu'il y en ait peu qui enseignent parce que nous serons jugés plus sévèrement. Les pasteurs et les enseignants sont donnés dans nos vies pour nous équiper à nous préserver, à reconnaître des fausses doctrines puis des fausses idées qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ, et s'ils introduisent des fausses idées, ça va être plus sévère. C'est pour ça que j'essaie de jamais, jamais mépriser les temps d'études puis de préparation pour mes messages. Je veux être certain que j'emporte une responsabilité qui est importante. On doit avoir un grand respect pour ceux qui nous enseignent, mais ça ne veut pas dire de jamais filtrer ceux qui nous enseignent à la lumière de la parole de Dieu. Jésus dit à l'ange qui est à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, « Je connais ton œuvre, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance. » Un des traits de persévérance, c'est de reconnaître des faussetés, de résister à ça, puis aussi de résister à la méchanceté. Peu importe le prix, de résister à la méchanceté, puis on va, c'est un combat. C'est un combat, mais ce n'est pas un combat qui est contre les individus. On n'a pas de combat entre nous. On a un combat contre des esprits méchants. Paul va dire dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des pensées qui sont contre Dieu, et ça nous conduit à désobéir à Jésus-Christ. Ce sont des raisonnements anti-Christ ou contre Christ. Jésus est le seul qui a le droit de nous dire, « Si tu n'assembles pas avec moi, tu disperses. » Mais Jésus a le droit de le dire. Ça. Et donc, une personne qui ne se tourne pas dans l'obéissance à Christ parce qu'il y a des raisonnements dans sa pensée, et dans le livre de Jean, un antéchrist, c'est celui qui niait que Jésus-Christ était Dieu venu vivre parmi les hommes. Il était contre Christ parce qu'il était en train de dire que ce n'était pas le sauveur du monde, littéralement. Et en ce sens-là, il est un ennemi de Jésus-Christ. Et Paul dit que son ministère consiste en un combat qui est de renverser des raisonnements qui seraient comme des murailles qui nous empêchent de connaître Dieu, de suivre Jésus-Christ puis de connaître Dieu. Et donc, on revient à notre verset bien-aimé, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Qu'est-ce que Jean fait? Bien, Jean, il fait son bon pasteur. Il dit, « C'est pas tout ce qui se dit de Dieu qui est de Dieu nécessairement. » Fait qu'éprouvez-les, puis je vous dis, un Jean, c'est le bain à acide pour tester le croyant du faux croyant. Et donc, qu'est-ce que Jean fait? Il nous fait une tête. Il nous aide à nous faire une tête pour discerner. Hein? Il va dire dans le chapitre 2, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils ne seraient pas demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Jean ici dit, il y a plein d'antéchrists qui sont venus dans le monde. Et c'est quoi le contexte? Il nie que Jésus est Dieu venu dans la chair. Ils sont contre Christ parce qu'en plus de croire que Jésus n'est même pas Dieu fait chair, ils l'enseignent. Et en ce sens, ils agissent comme des ennemis de Jésus-Christ. Dans ce temps-là, c'était ça le défi. Donc, Jean est en train de dire, c'est manifeste qu'ils étaient des figurants, qu'ils n'étaient pas là, ils étaient là de nom. Ils s'étaient associés à nous, mais ils n'étaient pas de nous. Ils s'étaient associés à nous, puis visiblement, ils faisaient partie de l'Église visible. Ils faisaient partie de l'arbre, si on peut dire. Mais ils étaient pas, faisaient pas partie de la famille des enfants de Dieu. Et ça a été rendu manifeste parce qu'ils n'ont pas resté jusqu'à temps de devenir amis de Christ. Ils n'ont pas laissé leur raisonnement se renverser pour éventuellement passer de méchant à délivré puis sauvé. Et donc, dans le psaume 1, c'est écrit que les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Quelqu'un qui veut continuer en ennemi de Christ, eh bien, il n'est pas capable de rester dans une église de corps, de croyants. Et ce verset-là, quand il est mal utilisé, puis c'est pour ça que je fais deux messages, c'est que si j'aurais pu arriver avec ce verset-là, puis dire, si les gens quittent les églises, c'est qu'ils n'étaient jamais sauvés. Hein? Et les tenants de la doctrine de la persévérance des saints, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, ceux qui ne sont pas dans les églises ne sont pas sauvés. C'était de ça qu'on parlait. Et c'est évident ici que ce n'est pas vrai que tous ceux qui sont en dehors des églises ne sont pas sauvés. Ça sert d'affirmer le conséquent, c'est-à-dire ce qui est vrai, c'est que ceux qui étaient des antéchrists, puis qui ont quitté, ils ont manifesté qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu, qu'ils ne faisaient pas partie de la famille de Dieu. Okay? Ils agissaient, il y avait deux conditions. Ils montraient leur perdition par deux choses. Premièrement, ils étaient ennemis de Christ, puis deux, ils ont déserté le corps de Christ, ils n'ont pas été sauvés. Et ça a été, puis Paul et Jean ont dit, c'est pour rendre manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est aussi pour rendre manifeste que c'est vrai qu'il y en a qui sont au milieu de nous, qui sont dans les églises, et qui ne sont pas des nôtres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, mais c'est aussi manifeste que ceux qui en ont sorti, puis qui étaient des ennemis de Jésus, ils n'étaient pas sauvés non plus. Tous ceux qui ne sont pas dans les églises ne sont pas perdus nécessairement, mais ceux qui agissent en ennemis de Christ et qui désertent le corps de Christ font questionner leur salut. Ou du moins, on ne devrait pas être en train de les suivre. Parce que c'était des faux enseignants, ces gens-là. Donc au moins, crée, mais écoute pas qu'est-ce qu'ils disent. Si ils sont partis, ils sont en guerre contre une église locale, puis ils ont agi en guerre, puis après ça, ils ne se rassemblent nulle part. Au moins, écoute-les pas. Tu sais. Au moins, aie un petit peu de discernement pour ne pas ajouter foi. Et quand il disait « testez les esprits, puis ajoutez pas foi à tout esprit », c'est le discernement qui est donné ici. Paul, il gémissait. J'arrive vers la fin. Là. Je suis comme vraiment en arrivant à ma conclusion. Merci pour votre patience. Paul, il gémissait. Je ne sais pas si je l'ai ici. Non. Paul, il gémissait, puis il disait… Dans Philippiens 3, il dit « Soyez tous mes imitateurs ». Encore une fois, il essayait d'être un modèle pour les frères et sœurs qu'il dirigeait. Il dit « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Et je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. » C'est quelque chose. Et toutes ces paraboles que Jésus nous a données au début, à la femme qui avait du levain, là, qui a mis du levain dans la pâte puis qu'elle a levé, le levain, quand il est pris au sens figuré, c'est toujours de la fausse doctrine. Quand je vous ai donné la parabole avec ces arbres qui étaient devenus cet arbre, qui était devenu anormalement trop gros et que les oiseaux étaient venus s'y percher dedans, je me suis dit, pourquoi j'irais à l'endroit qui attire le plus le diable? parce que c'est quand même là qu'on étudie la vérité, qu'on apprend à connaître notre Dieu. Dans Actes 20, 28, vous pourrez le lire, mais Paul, il s'en va. Là. Lui, il sait que son heure s'achève, puis il rassemble tous les pasteurs de la région d'Éphèse, puis il leur dit, je vais quitter, mais après que j'ai quitté, il y a des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau, qui vont venir au milieu de vous. Donc, c'est une protection pour chacun d'entre nous d'être dans une église locale et d'avoir des pasteurs, des conseillers sur nos vies, peuvent venir mettre une belle protection spirituelle, des gens qui se mettent à part, des femmes et des hommes qui enseignent et qui se mettent à part pour essayer de trouver le vrai du faux dans ce livre-là, au meilleur de notre connaissance, parce que personne ne l'a complètement, mais on est des cherchants Dieu. Hein. Puis il y a une belle évidence de salut, puis j'arrive à cette je suis en train de descendre, là, je suis en train d'arriver vers la fin. Mais il y a une belle évidence qu'une personne est sauvée. Dans 1 Jean, il y a au moins 12 fois qu'il fait des preuves d'authenticité de c'est quoi un vrai croyant. On en voit une ici. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Encore une fois, c'était ces enseignants-là. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais nous, nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, de l'esprit de l'erreur. Ici, une personne qui a reçu l'esprit de Dieu, elle ne réagira pas contre la vérité si elle voit la vérité. Si on réagit contre l'erreur, trouvons-la l'erreur. Mais si quelqu'un est là en réaction contre un ministère qui enseigne la parole de Dieu, puis qu'elle ne peut pas vous dire, c'est quoi, on va s'aiguiser ensemble pour que Dieu nous éclaire sur cette chose-là, bien, je veux dire, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde n'est pas capable de recevoir les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est une belle preuve ici, une évidence d'être sauvé parce que quelqu'un qui reste dans un ministère, une église chrétienne qui enseigne la Bible, puis qu'elle n'a pas de problème avec si c'est écrit, puis que c'est scripturaire ce qu'on lui enseigne, elle n'est pas en réaction contre ça. Puis Jean, il commence son épître en disant, « Sais-tu quoi, si tu veux marcher dans la lumière, bien, si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne marches pas dans la lumière, bien, tu es dans les ténèbres, tu n'es pas encore sauvé. » C'est un peu ça qui, au début, va dire, gars, si tu dis la même chose que Dieu, bien, tu es dans la lumière, tu es avec le Fils qui est dans la lumière, puis tu es en communion avec les frères et sœurs, tu es dans le corps de Christ. Et là, le livre, puis c'est pour ça que le verset tantôt, ils sont sortis du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres, ça n'a pas pour but de faire douter. C'est si tu es là, encore je l'ai dit la semaine passée, mais si tu n'es pas dans une église chrétienne, puis tu es chrétien, tu es un poisson dehors de l'eau. Trouve-toi une église. Parce que dans ton cœur, tu as certainement reçu l'amour pour les enfants de Dieu. Peu importe la raison, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu as reçu un amour, mais il faut que tu obéisses à cet amour-là qui est dans ton cœur. Puis là, il leur donne des versets. Jean n'a pas été écrit à un Jean pour nous faire douter qu'on ne pouvait pas être sauvé, qu'on n'était pas sauvé. Mais je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. 3:1, voyez lequel quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Il ne dit pas, on n'est peut-être pas des vrais, tu sais, on n'est peut-être pas des vrais. Ce n'est pas ça le but d'un genre. Ce n'est pas de dire, sais-tu quoi, là, après l'assemblement, là, ah, me semblait aussi que pasteur Patrice, non, c'est une joke, tu portes plein de fruits. La question ne se pose même pas. Mais on n'est pas à la chasse aux sorcières pour trouver c'est qui le vrai et c'est qui le faux entre nous. Puis comme j'ai dit la semaine passée, si les versets nous disent qu'il faut aimer les frères, puis là tu te dis, hey, moi je suis un sauvé, fait qu'il faut que j'aime les frères, sinon je ne suis pas un sauvé. Non, sois sauvé, aime les frères. Tu es convaincu d'être sauvé, regarde, as-tu cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Tu as la vie éternelle. Fait qu'approche-toi de lui comme ça. Donc, c'était ça. C'était ça le message d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. On va fermer les yeux ensemble, si vous voulez bien. Aujourd'hui, ce message est pour nous montrer comme un phare dans la mer, peut-être une mer agitée, justement. Que Dieu a placé des phares, là, des églises locales, un peu partout dans le monde. Des endroits où Dieu se met à part des gens qui ont voulu le servir, qui ont désiré être surveillants spirituels d'un troupeau. Il y en a plein, partout. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse apprendre et grandir dans la vérité et dans la grâce de Dieu. Dieu vous appelle à grandir avec lui, à le connaître, mais ça commence par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que toi puis moi, on a péché, puis on est séparés d'avec Dieu. S'il n'y a rien qui change jusqu'au jour de notre mort, ben, qu'est-ce qui arrive avec nos péchés? Il arrive qu'on va mourir avec nos péchés, puis on va être jugé pour nos péchés. Mais si j'arrêterais l'histoire-là, ça serait très, très sombre. Mais l'histoire la plus merveilleuse, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois puni en enfer. Il ne veut pas que tu sois jeté dans un feu comme l'ivraie. Il veut que tu deviennes un fils ou une fille du royaume. Mais comment on fait ça? Eh bien, on accepte ce que Jésus a fait. Comme quelqu'un qui paye pour toi au restaurant, comme quelqu'un qui paye une rançon de quelqu'un qui était prisonnier puis est renvoyé libre. Jésus-Christ est venu sur la croix et a payé la dette de tes péchés. Les péchés que tu avais faits, que tu méritais d'être puni, Jésus a été puni à ta place pour que tu ne sois pas puni puis que tu puisses recevoir la vie éternelle. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de croire que Jésus est Dieu fait chair et que lui n'a pas péché. Et à ta place, il a payé la rançon pour toi. Puis le troisième jour, il est ressuscité des morts, puis il est parti te préparer une place qu'il va te donner quand il va revenir. Qu'est-ce que tu dois faire? Accepter ça. Mais pas juste comme un fait historique. L'accepter pour toi. Et donc, en faisant cette prière que je vais vous diriger à faire dans quelques instants, l'Église va la faire en geste de courtoisie. C'est pas, on n'accepte pas le Seigneur plusieurs fois. On l'accepte une fois. Puis après ça, Dieu n'est pas sourd, il nous écoute. Ben, il nous donne la vie éternelle. Puis un don, un véritable don, c'est quelque chose qu'on ne reprend pas. Et Dieu ne se regrette pas de l'avoir donné une fois qu'il l'a donné. Si tu veux accepter son don, sa vie, fais cette prière avec nous. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin d'être pardonné. Merci d'être mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Seigneur, si quelqu'un a fait cette prière pour la première fois, il n'a peut-être pas tout compris qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Il n'a peut-être pas tout compris qu'est-ce qu'on a dit. Il n'a peut-être pas compris les mots compliqués que j'ai pu avoir dit. Mais Seigneur, puisque tu es présent au milieu de nous, puisque tu aimes chaque personne sur la terre, je te prie, Seigneur Dieu, de déverser dans le cœur de ces personnes ton amour. Si quelqu'un a fait la prière pour la première fois, je te prie que tu puisses ouvrir ses yeux, les yeux de son cœur, pour qu'elle puisse comprendre qu'aujourd'hui, tu lui as donné la vie et que cette vie-là, c'est Jésus-Christ qui vient auprès du Père. Je te prie de lui donner une paix incroyable et la joie d'appartenir à ta famille. Pas à une église, pas à un mouvement, mais à Jésus-Christ qui l'a racheté d'entre les morts. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous pouvez rester pour dîner. Sinon, on va se reprendre.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.